tous, bienvenue à notre réunion publique pour lutte ouvrière dans le cadre des élections législatives. Donc je vais vous présenter les camarades qui sont présents à la tribune. Donc à ma gauche, le camarade Jean-Pierre Mercier qui est candidat pour la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis et qui travaille à l'usine PSA à Aulnay qui est menacée de fermeture par la famille Peugeot. À ma droite, sa suppléante, Élodie Brock, qui est professeure des écoles à Aubervilliers. Et au bout de la table, à gauche, c'est Anne Saint-Thier, qui est, elle, candidate pour la circonscription de Fontenay, Vincennes et Saint-Mandé, et qui travaille à l'hôpital Trousseau en tant que technicienne de labo. Et moi-même, je suis Aurélie Jochot, infirmière à l'hôpital de Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement, et j'habite Montreuil. Donc, je vous passe tout de suite la parole à Jean-Pierre Mercier.
Bien, bonsoir à tous. Je vais juste vous faire un petit exposé d'une quinzaine de minutes, puis après, on passera au débat, si vous voulez. Si la grande majorité des travailleurs et des classes populaires sont contents de s'être débarrassés de Sarkozy, de son arrogance et de son mépris vis-à-vis des plus pauvres, il n'y a vraiment pas de raison d'espérer une politique en faveur des travailleurs du côté de Hollande. Le gouvernement de Hollande est certes nouveau, féminisé, rajeuni, mais le changement s'arrête là. Dans la société, rien n'a changé. Les maîtres de l'économie sont toujours bien là, et ils poursuivent leur politique, leur exploitation. Hollande veut apparaître comme différent de Sarkozy. Et c'est vrai. Il prend le train et pas l'avion. Il a réduit son salaire, mais attention, que de 30% seulement, alors que Sarkozy l'avait augmenté, lui, de 170%. Donc, si on fait le calcul, il s'en est gardé quand même. Il n'a pas été jusqu'au bout. Voilà. Il n'est pas fou. Là où Sarkozy affichait son arrogance, Hollande convoque les syndicats pour discuter. Mais ce n'est pas ça qui remplira notre frigo et qui donnera du travail aux chômeurs. Sur les salaires ouvriers, par exemple, il explique que ça sera difficile de donner une augmentation conséquente au SMIC, car il ne faut pas mettre en danger les petites entreprises. Comprenez ? Tant pis pour les budgets des travailleurs qui, eux, sont en danger depuis des années. Hollande avait promis de réduire les rémunérations des grands patrons des entreprises publiques. Cette mesure, toute symbolique, serait de toute façon limitée, car elle laisserait intact le salaire des PDG du privé et surtout les dividendes des actionnaires. Alors ce ne sont pas des mesures symboliques qui changeront la vie des classes populaires. Pendant qu'on nous dit d'attendre pour juger le nouveau gouvernement, on constate que les patrons, eux, de leur côté, n'attendent pas pour licencier. La CGT a dénoncé des plans de licenciement qui menaceraient 46 000 emplois. ArcelorMittal, Fralib, Petroplus, PSA, Auchan, Carrefour, Air France. La liste est longue de ces grands groupes qui prévoient de licencier, de jeter à la rue des milliers de travailleurs supplémentaires. Et si pendant la campagne électorale, on a vu des dirigeants socialistes venus soutenir en parole les travailleurs menacés de perdre leur emploi, aujourd'hui, les mêmes devenus ministres disent ne pas pouvoir faire grand-chose. Alors qu'il s'agirait d'une mesure vitale pour le monde du travail, ni Hollande, ni ses ministres ne veulent interdire les licenciements. Le gouvernement Hollande ne s'opposera pas aux décisions des patrons, ne protégera pas les emplois des travailleurs. Montebourg ne promet que de chercher des solutions de rechange quand les patrons veulent fermer une usine, pas de les contraindre. Il sait qu'ainsi, il n'empêchera pas l'hémorragie des licenciements de continuer. Alors il promet sa solidarité, sa compassion avec les futurs licenciés. Mais sa solidarité ne coûte pas cher. Lui qui vit avec une paye de ministre quand nous sommes menacés par la misère. Ce gouvernement, parce qu'il n'est pas prêt à s'attaquer au pouvoir des grands patrons, ne pourra rien faire pour changer la vie des classes populaires. Il s'aplatira devant les mêmes, les Bouygues, les Muliez, les Peugeot. Il acceptera de payer la dette auprès des banques pour que les spéculateurs, les banquiers, puissent continuer à s'enrichir. Et pour ça, il continuera à faire payer la population en dégradant ses conditions de vie. Il mènera une politique d'austérité et que celle-ci soit baptisée de gauche ne la rendra vraiment pas meilleure. Alors le seul moyen de sauver notre peau, aujourd'hui encore, c'est de nous préparer à nous battre contre les attaques patronales, de nous battre massivement, collectivement, en ayant une conscience claire des enjeux et des objectifs. Face au plan de licenciement, ça ne suffit pas que les travailleurs menacés de perdre leur emploi se battent. En réalité, c'est l'affaire de l'ensemble de tous les travailleurs, parce que nous sommes tous concernés. Quand les patrons ferment une usine, c'est bien souvent pour surcharger de travail les autres ouvriers. Ils licencient pour accroître leurs bénéfices en aggravant l'exploitation. Chez PSA, où je travaille, la famille Peugeot a prévu de fermer l'usine d'Aulnay à l'horizon 2014. Et elle commence déjà à augmenter les cadences à l'usine de Mulhouse, à Poissy, et à faire travailler de nuit et les week-ends. Alors oui, le combat pour imposer l'interdiction des licenciements doit devenir un objectif majeur des luttes de demain. Et pas seulement de ceux qui sont directement menacés de licenciement, mais de tous. Car le chômage pèse sur nous tous, et ce n'est que tous ensemble que nous pourrons faire reculer le patronat. Avec la crise actuelle, la guerre que nous mène ce patronat est devenue plus violente, plus brutale. Ils cherchent à récupérer sur notre dos les profits qu'ils ne font plus ou beaucoup moins avec la vente de leur production. Et ils comptent bien nous enfoncer encore plus dans la misère pour protéger leurs profits. En regardant ce qui se passe en Grèce, en Espagne, on voit les nuages qui s'accumulent sur notre tête. Oui, les patrons, ici aussi, veulent que les États réduisent les dépenses sociales, le nombre de travailleurs des services publics, leurs salaires, pour trouver des milliards à leur concéder. Oui, les patrons, ici aussi, veulent casser le droit du travail, pour augmenter la journée de travail, pour réduire les salaires, pour précariser encore plus les travailleurs, pour avoir encore plus de liberté, pour aggraver l'exploitation. Alors il faut se préparer à se défendre, car il n'est pas question d'être sacrifié sur l'autel de la crise et des profits. Pour défendre nos emplois et nos salaires, pour défendre nos conditions de vie, il est illusoire de croire qu'il suffit qu'il y ait lieu des négociations entre partenaires sociaux, comme ils disent. Il ne s'agit pas de trouver un certain terrain d'entente entre les capitalistes et les travailleurs, car il n'existe pas. Pour sauvegarder les conditions de vie des classes populaires, pour embaucher dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les services publics, pour remettre la retraite à 60 ans pour tous, il n'y a qu'un moyen, faire payer le patronat, la bourgeoisie, les plus riches. Depuis des années, les actionnaires des grands groupes encaissent des milliards de profits. Eh bien, il faut prendre sur cet argent pour trouver les moyens de rendre la vie de millions de travailleurs décente. Il faut affronter le patronat, le faire renoncer à ses plans de fermeture, lui interdire de licencier, le forcer à embaucher. Toutes choses que n'imagine même pas en rêve le gouvernement Hollande. Il faut que les sacrifices changent de camp, tout simplement. Et pour cela, il faut contraindre le patronat, le contraindre en changeant le rapport de force. Cela ne peut se faire par des lois gentiment votées. Les capitalistes se moquent des lois, comme ils se moquent des paroles des gouvernants. Regardez en Grèce, même un gouvernement qui se dit de la gauche radicale reste en fait impuissant face aux banquiers. Les seuls qui peuvent faire reculer les capitalistes, les maîtres de l'économie, eh bien ce sont les travailleurs quand ils sont en lutte. Et cela devient de plus en plus urgent. Le système économique de la bourgeoisie est en crise et chaque jour, on peut constater à quel point cette classe sociale est absolument incapable de gérer l'économie pour le bien de la collectivité. Depuis bientôt 40 ans, la finance attire les capitaux car elle permet de réaliser des profits rapides et juteux. La spéculation engloutit des sommes telles qu'en un clic de souris, un seul trader peut perdre 2 milliards de dollars, comme c'est le cas de ce trader de la banque Morgan. Parce que dans cette société capitaliste, faire de l'argent le plus vite possible n'est pas un crime, au contraire, c'est la vertu suprême. La logique même du système pousse à cela et le résultat, c'est de jeter à la rue des millions de travailleurs. C'est un gâchis effroyable. Alors on peut vraiment dire que le capitalisme est au bout du rouleau, que la bourgeoisie est une classe parasitaire. Oui, il est nécessaire de détruire le capitalisme, de renverser le pouvoir de la bourgeoisie. Il est nécessaire de transformer l'économie dans le sens des intérêts de la collectivité, de contrôler toute l'économie pour produire en fonction des besoins et non en fonction du profit d'une minorité. Alors nous sommes communistes. Communistes dans le vrai sens du terme, dans le sens donné par des générations de travailleurs qui rêvait d'une société débarrassée de la dictature de l'argent, de l'exploitation, de la concurrence et des crises économiques. Une société gérée fraternellement et démocratiquement par la collectivité de ceux qui travaillent et produisent. Si nous nous adressons aux travailleurs et si nous voulons représenter leurs intérêts, ce n'est pas seulement parce que nous choisissons de nous placer du côté des opprimés et des plus pauvres. C'est aussi parce que nous sommes convaincus qu'à travers la lutte de classe qui les oppose aux capitalistes, les travailleurs seront capables de conquérir le pouvoir politique, de s'en servir pour transformer de fond en comble la société et la refonder sur des bases collectives. Les propriétaires, les actionnaires ne dirigent pas parce qu'ils sont compétents, mais parce qu'ils possèdent des capitaux. Voilà pourquoi la société fonctionne à l'envers. Eh bien, les travailleurs ont la capacité de diriger cette société. Ils le feront mille fois mieux parce qu'ils ne seront pas aveuglés par le profit et la rentabilité. Alors oui, nous plaçons notre confiance dans la classe ouvrière dont Marx avait dit le premier qu'elle n'avait que ses chaînes à perdre et le monde à gagner. C'est ces idées que nous voulons faire vivre quand nous disons que nous voulons défendre le drapeau communiste. Nous avons montré qu'il y a dans le pays des femmes et des hommes qui ne craignent pas d'être à contre-courant et qui tiennent avant tout à défendre leur idéal communiste. Les élections législatives nous donnent une nouvelle opportunité de nous faire entendre à l'échelle du pays en nous présentant dans toutes les circonscriptions. Si la crise s'approfondit, il ne faut pas laisser aux partis de droite ou d'extrême droite la possibilité de mettre la révolte de l'une ou l'autre des catégories populaires au service de leurs projets réactionnaires. Les communistes révolutionnaires doivent être présents et se battre pour donner à ces luttes la seule orientation positive, la lutte de classe. Pour que les coups de colère se transforment en révolte consciente, il faudra que les travailleurs se dotent d'une politique, qu'ils sachent contre qui se battre et pour quels objectifs. L'avenir des travailleurs ne se décide pas dans les couloirs feutrés du Palais Bourbon, mais dans ceux des conseils d'administration des groupes industriels et financiers. Alors nous nous présentons pour défendre un programme de lutte, car quelle que soit la future assemblée, les travailleurs auront à se battre pour imposer leurs intérêts vitaux. Face aux plans de licenciement qui se multiplient, il faut interdire les licenciements et répartir le travail entre tous sans diminution de salaire. Il manque du personnel dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les transports. Eh bien, il faut créer des emplois en procédant à de grands travaux comme la construction de logements sociaux, par exemple. Au lieu d'être aspiré par la spéculation, les profits des groupes capitalistes comme les revenus des gros actionnaires doivent servir à financer ces emplois. Le droit à un emploi, avec un salaire permettant de vivre correctement, est le seul véritable droit des travailleurs dans cette société d'exploitation. Il faut se battre pour l'imposer. Il faut aussi obtenir une augmentation générale des salaires et des retraites, indexée automatiquement sur les hausses des prix pour faire face aux coûts de plus en plus importants de la santé, du carburant et des charges. Qu'en 2012, il apparaisse comme utopique de porter le SMIC à 1 700 euros net, alors que des milliards inutiles s'accumulent à impôts de la société, montre toute l'absurdité du capitalisme. Pour se protéger des mauvais coups des capitalistes, il faut imposer un contrôle des entreprises par les travailleurs et par la population en exigeant la suppression du secret industriel. On pourrait ainsi voir où va l'argent et contester les décisions avant qu'il ne soit trop tard. Tous ceux qui approuvent ces revendications et souhaitent qu'elles soient mises en tête des futures luttes du monde du travail et qui l'ont montré lors de l'élection présidentielle en votant pour Nathalie Arthaud doivent prolonger ce vote par un vote en faveur des candidats de lutte ouvrière. Nous savons que nombre de travailleurs qui étaient d'accord avec ces revendications ont fait le choix de voter Hollande pour se débarrasser de Sarkozy. Eh bien aujourd'hui, ce vote utile n'a plus lieu d'être. Ceux qui partagent les objectifs que nous défendons doivent voter selon leurs convictions. Plus ces votes seront nombreux, plus cela donnera de la force et du crédit à des idées qui sont les seules susceptibles de préparer l'avenir pour les travailleurs. Hollande élu, il faut que les travailleurs se manifestent, qu'ils expriment leur intérêt de classe, qu'ils mettent en avant leurs revendications, qu'ils montrent qu'ils ne se laisseront pas faire. Les travailleurs ont intérêt non seulement à être méfiants, mais aussi à montrer clairement au gouvernement qu'ils le sont. Ils ont intérêt à montrer au gouvernement que celui-ci est sous la surveillance non seulement des marchés financiers, mais aussi des travailleurs et que les critiques ne viendront pas seulement de sa droite, mais aussi de sa gauche. Tous ceux qui pensent que l'avenir du monde du travail n'est pas au fond des urnes, mais qu'il est dans la capacité des travailleurs à renouer avec des mobilisations puissantes, semblables à celles de mai 68 ou de juin 36, doivent l'exprimer par leur vote. Tous ceux qui se reconnaissent dans les idées communistes et souhaitent que renaisse un parti pour les incarner, eh bien, doivent l'affirmer. Les élections législatives qui auront lieu dans moins de 10 jours en sont l'occasion. Mais quel que soit le résultat des élections, ce qui est sûr est que pour changer leur vie, les travailleurs ne pourront compter que sur leur propre force, sur leur capacité, à travers des luttes puissantes et massives, à changer durablement le rapport de force. Alors pour finir, eh bien aux élections législatives, votez et faites voter pour les candidats de lutte ouvrière.
Je passe la parole à Élodie Brock.
Juste quelques mots sur l'école. Donc, je suis institutrice dans le 93 depuis des années. Et c'est vrai que j'ai vu les choses se dégrader petit à petit, surtout dans des communes comme dans le 93. Nos conditions de travail et du coup les conditions d'accueil des élèves, ces mêmes élèves qui eux-mêmes subissent la crise dans leur milieu, dans leur famille. Voilà. Et par exemple, je faisais partie du RASED, c'est les postes pour aider les élèves en grande difficulté scolaire. Il y a des psychologues, des rééducateurs et des instituts spécialisés. Et c'est des postes qui ont été supprimés. Et donc, il y a des endroits où ça n'existe, des écoles où il n'existe plus du tout de collègues comme ça, en plus qui prenaient les élèves, qui sortaient les élèves de la classe. Voilà. Et donc là, je ne sais pas si Hollande va tenir sa promesse des 12 500 postes par an. Mais en tout cas, surtout, je ne sais pas non plus quand. Alors que ce qui est sûr, c'est que c'est aujourd'hui, maintenant, qu'il y a des besoins à l'école. Et dans les autres services publics, d'ailleurs, hein, comme à l'hôpital. Et voilà. Et il n'y a pas de raison que l'argent public serve à payer les dettes des patrons. Hein. Quand ils font des profits, c'est toujours privé. Mais quand c'est des dettes, alors là, ça devient public. Et c'est nous qui devons mettre la main dans la poche pour sortir l'argent. Ben, il n'y a aucune raison de ça. Donc voilà, il faut prendre sur leurs profits hein, qu'ils ont accumulés sur l'exploitation des travailleurs. Et il faut prendre sur les dividendes des actionnaires. Et pour ça, ben, faudra l'imposer. Il va falloir se battre et compter que sur nos forces et nos luttes. Voilà, donc je vous propose d'en discuter là, ensemble.